On est avec Ninon Anne-Carsegal pour parler un peu de clavecin moderne, parce que tu es pianiste mais aussi claveciniste et friande de contemporain et d'écriture 20e un peu.
Tout à fait.
Et tu sors en ce moment un calendrier de l'Avent lié à cet instrument qui est le clavecin moderne. Et donc on va en parler aujourd'hui. On est aussi avec Mickaël, coucou Mickaël, qui n'a pas
Hello
de micro pour l'instant, mais tranquille. Alors, est-ce que tu peux déjà nous dire en quoi ça diffère des autres clavecins, en quoi c'est un instrument particulier? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça?
Oui, alors, donc, le calendrier de l'Avent du clavecin moderne, cette année, c'est une série de vidéos. Il y en a à peu près 28, puisqu'il y a eu des petits teasers pendant le mois de novembre, et puis là on est déjà au 15 décembre, donc ça fait déjà quelques temps que le calendrier est sorti donc sur Instagram. Et le but du calendrier de l'Avent, effectivement, c'était de faire découvrir cet instrument qui est un peu différent du clavecin traditionnel qu'on peut connaître et qu'on peut aussi ne pas connaître. C'est possible, il y a des auditeuristes qui peut-être ne savent pas vraiment comment ça fonctionne un clavecin traditionnel. Donc le but du clavecin, dit simplement, c'est une corde pincée. Il fait partie de la famille des guitares, des harpes, etc. Et ça va être pincé par un petit plectre. Appelé le bec, qui va être construit avec un matériel qui s'appelle le Delrin. C'est okay. Très technique.
C'est
technique
c'est
ce soir.
C'est
un similé plastique, mais surtout, okay. ça a la vocation d'imiter la plume de l'oiseau que nous ne tuons pas ou que nous ne plumons pas pour récupérer sa substantifique moelle. C'est très vegan friendly aussi. Donc il y a plusieurs styles de Delrin, mais bon, on va passer à autre chose peut-être. la corde est pincée et c'est tout ce qui compte. Ensuite, on va avoir plusieurs façons d'ajouter des jeux, parce qu'à l'époque du clavecin, dans la grande ère du clavecin traditionnel, on voulait avoir une sorte de petite orgue de chambre, d'une certaine manière, parce que même si on était très friand de cette intimité qu'on a avec les cordes, puisqu'il y a une seule corde qui est pincée par jeu, on aime bien avoir cette espèce de petit instrument à soi qui ne sonne pas si fort que ça, et juste qui est là pour soi et ses amis, donc avec la musique de chambre, etc. Ensuite, on va pouvoir ajouter des jeux, parce qu'il y a une personne qui chante, puis deux, puis trois. On a envie d'avoir un jeu de cordes, puis deux jeux de cordes en même temps, et puis parfois même un troisième, ça arrive, avec quelque chose qui s'appelle le 4 pieds, qui a été inventé très très tôt, et qui sonne souvent très faux, parce que c'est une octave au-dessus, et ça va avoir des petites... c'est un petit esprit de clochette. Le clavecin, on lui a coupé la tête. À un moment donné.
Okay.
Clairement.
Il avait une tête.
Il avait une tête comme Louis XVI, okay. Et puis on l'a enlevé. Donc, il est parti avec le package. À un moment donné, comme toute bonne chose et mauvaise chose aussi en France et dans beaucoup d'autres pays ailleurs, on a voulu retrouver une forme de côté un petit peu royal avec surtout les chutes de l'Empire, etc., on a quand même, on s'est dit, tiens, c'était sympa, les châteaux, visiter des lieux, se souvenir des gens. Et en même temps, on a visité aussi des bibliothèques. Et ces bibliothèques, elles sont remplies de trésors, qui sont des fonds. Et les fonds nous ont conduits à nous rendre compte qu'on pouvait recommencer à construire des clavecins, bien qu'une bonne partie soit c'est fini au bûcher. Donc on a voulu reconstruire des clavecins, et ce, à la fin du 19e siècle. Au 19e siècle, il y a aussi les expositions universelles et les avancées technologiques. Donc chaque petite chose était très technologique, toujours très... C'était des choses qui avaient envie d'aller vers de l'innovation, et donc on a voulu innover avec les clavecins.
Waouh, ok, donc histoire du clavecin moderne. Ok, j'ai l'impression que tu t'y connais hyper bien et qu'il y a un rapport à la lutherie qui est un peu différent dans les... Bah, du coup, c'est pas un instrument ancien, mais qui a une origine quand même ancienne. Et en plus, on voit dans le calendrier que tu vas vachement trifouiller dans ton clavecin. Je pense que tu te rentres vachement sous le couvercle et tout. Quel rapport, toi, t'as à cet instrument matériellement ? Enfin, comment tu le vis ?
C'est vrai que au-delà de... Déjà, quand on trifouille le piano, pas mal de gens ont peur pour l'état du piano et sa vie. Voilà. Tout le monde se fait beaucoup de soucis. Le clavecin, c'est pire parce que, concrètement, il y a du souci à se faire aussi. Il faut faire attention.
C'est fragile.
Voilà, c'est fragile, mais le piano aussi, et les humains aussi, d'ailleurs. On en parle. J'en profite pour rappeler que toucher un humain, c'est pas bien non plus. Mais donc... on a pu voir hier, d'ailleurs, le 14, j'ai sorti une sorte de petite complainte du pirate. C'était le chiffre 14, je l'aime beaucoup. Je pince concrètement vraiment la corde. Et bon, il n'y a pas de souci avec toutes ces choses. Il se trouve que, enfin, pour la facture, il se trouve qu'en connaissant la facture et en s'intéressant à la facture, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient permises. Mmh. Il y a, bon, évidemment, par exemple, au piano, il ne faut pas toucher les étouffoirs. Donc, quand on fait du piano préparé, c'est la première chose qu'on apprend, tu ne touches pas les étouffoirs, c'est comme ça. Sinon, bah, tu envoies le piano à la casse. Au clavecin, les cordes sont souvent, claquent très souvent au moment de l'accord. C'est des choses qui arrivent. Il faut faire attention au bec, etc. Mais tout est plutôt réparable. Et souvent, le claveciniste sait comment le faire. C'est ce qui différencie beaucoup, d'ailleurs, les clavecinistes et les pianistes. Les clavecinistes savent accorder, savent changer des cordes, savent changer des becs, savent... au niveau du clavecin moderne, on a ce qui s'appelle des petites vis sur les côtés qui peut modifier l'engagement ou non du bec sur la corde. Donc avoir un toucher plus dur ou plus doux. Et toutes ces choses, toutes ces connaissances font qu'au bout d'un moment, on finit par avoir envie de... en tout cas, moi, j'ai envie de un peu aller au-delà de la frontière du clavier évidemment, puisque quand on passe sa vie à accorder, et je ne sais plus si ce numéro est vraiment sorti, mais je crois que oui, il est sorti. On passe sa vie à mettre la clé sur les cordes, ça finit par faire une sorte de son de sitar. Bah, on a envie d'improviser un petit peu avec ça, parce que c'est marrant et que voilà, ça mange pas de pain.
Donc c'est un instrument qui a des racines hyper anciennes, mais qui a été, comme tu nous l'expliquais, remis au goût du jour. Et ensuite, il y a des compositeurs jusqu'à maintenant qui s'en emparent vachement. Pour toi, de quoi ? Est-ce que c'est justement cette nostalgie pour l'ancien, comme tu disais, on est allé un peu chercher l'instrument avant la Révolution ? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une volonté de faire quelque chose de complètement nouveau ? Est-ce qu'il y a une tendance que tu remarques ou c'est vraiment des usages très variés ?
Avec le clavecin moderne ?
Ouais, et l'écriture un peu contemporaine pour cet instrument.
En fait, je pense que le clavecin moderne, donc cette facture qui... J'étais pas allée au bout de l'explication, donc peut-être que les auditoristes sont un peu perdus, mais avec les avancées technologiques du clavecin et l'envie de faire toujours un peu plus, c'était une époque où rajouter des choses à ce qui avait déjà été créé, c'était quelque chose de bon. On voit dans les partitions, je suis sûre que quand vous avez travaillé du bac, quand vous étiez petit, si vous aviez des éditions un peu usuettes, il y avait des nuances, des crescendo, et puis votre prof de piano disait « Ah, mais à l'époque de bac, on mettait pas ça, donc on enlève les nuances, parce qu'en fait, il n'y a pas de nuances chez bac, et puis là, l'édition a rajouté des choses ». On le fait plus aujourd'hui, Berenreiter, bon voilà, on essaye d'aller au plus proche de ce qu'on retrouve dans les textes de Bach, dans les facsimilés, mais en fait, c'était une époque où on se disait c'est de bon goût de rajouter quelque chose qu'on trouve beau et qu'on trouve bien. Donc on a rajouté un 16 pieds au clavecin, et le 16 pieds c'est absolument irrésistible, et le 16 pieds ça fait sonner le tout une octave plus bas. Donc, pour répondre à ta question originelle, aujourd'hui, les compositeurs, enfin finalement, je pense qu'être compositeur, c'est faire ce qu'on veut. Donc, on prend les instruments qu'on veut et on fait de la musique avec, et les gens qu'on veut, surtout les gens, j'ai envie de dire, parce que c'est les interprètes qui donnent envie de composer un peu quand même, j'espère. C'est une question pour Mickaël, ça. Mais... le clavecin moderne, en fait, c'est un instrument aujourd'hui qui est historique pour moi. Je ne considère pas le clavecin moderne comme un instrument du futur.
Ok.
Puisqu'on a retrouvé, en fouillant de plus en plus les bibliothèques, les fonds, les châteaux et tout, on a retrouvé des vrais brevets de clavecin de construction. Et aujourd'hui, on fait de véritables copies, mais c'est magnifique ce qu'on arrive à faire. Là, encore, Clavecin en France a réussi à faire la copie d'un clavecin qui s'appelle le clavecin de Dissoudun, qui est un clavecin, mais bon, archi ancien. Je ne vais pas dire une date parce que je vais forcément dire la mauvaise. et c'est une beauté incroyable. Et on pourrait faire de la musique contemporaine sur ce clavecin, d'ailleurs. Ce serait hyper intéressant. Le truc, c'est que le clavecin moderne, il a plus de variété au niveau des jeux, puisque tu peux pouvoir mettre, par exemple, ton 16 pieds avec ton 4 pieds.
Oui.
Donc finalement, cette variété de timbres est spécifique et surtout, on l'entend, ça fait très 70s quand même. C'est très daté. Le son, sur ce calendrier, moins parce que c'est un clavecin Side A, 1968, véritable 68art, mais fait par un facteur qui s'intéressait énormément aux traités, aux brevets des clavecins d'époque. Donc Side A, il est connu pour faire des copies exceptionnelles. Donc il a fait ce clavecin moderne pour le petit jeune homme qui était en lui, qui était fan de Vanda Landowska et qui jouait beaucoup ses clavecins, qui a par exemple créé le concert champêtre de Poulenc. C'est une copie d'un clavecin qui s'appelle Dolmecht et une fusion avec les clavecins Pleyel de l'époque, donc qui étaient présents aux expositions universelles. Il sonne pas comme les clavecins qu'on faisait dans les années 50, 60, 70, qui étaient très présents à Radio France, donc dans la musique de Xenakis, de Luc Ferrari, de François Bernard Mache, de toute une clique, Gracienne Findi a composé pour ses clavecins, etc. Donc finalement, pour finir, pour répondre à ta question, les compositeurs aujourd'hui, ils vont être très inspirés, je pense, par l'envie des interprètes d'aller plus loin que leur instrument, pas forcément de mettre les mains dans le cambouis, mais de se frotter au présent avec les instruments d'hier, voire d'avant-hier, voire d'avant-avant-hier. Là, c'est juste l'instrument d'hier. Oui. Et moi, je trouve le son à tomber par terre. Voilà.
Oui, alors moi justement, on parlait du clavecin moderne des années 60, 70. Moi, je pense tout de suite à Nam June Paik, qui fait des improvisations au piano et avec un clavecin à côté et qui migre un peu entre ces deux médiums. Et aussi, je pense par exemple à un là, du coup, c'est pas les années 60, mais c'est actuel, à Léo Duplex, je sais pas si tu connais, qui ramène son clavecin dans des soirées presque techno et qui fait des moments au clavecin tout seul, comme ça, un peu en répétition. J'ai quand même l'impression que, justement, il y a beaucoup de musiciens, de musiciennes qui s'en emparent pour la sonorité vraiment typique du clavecin et qui nous rappelle un peu un côté espiègle, etc. Et aussi, j'ai l'impression que pour le public, c'est totalement innovant, en fait, de redécouvrir cet instrument. Toi finalement, toi qui te confrontes beaucoup avec le public en tant qu'interprète, en tant que pianiste, en tant que claveciniste, quand tu passes à cet instrument qu'est le clavecin, quelle sorte de réaction t'as avec le public?
Donc, il y a un petit côté spectaculaire entre le piano et le clavecin. Pour être très honnête, souvent, les gens, quand ils voient mon clavecin qui est marron, cubique, pas décoré, sont déçus. Les gens sont déçus de voir un clavecin comme ça. Selon le modèle, souvent, bon, celui de Royaumont, il est quand même assez apprécié, mais si je vais prendre un modèle Neupert, donc c'est une marque allemande, donc tout ce qu'il y a de plus allemand, voilà, c'est vraiment très allemand, les gens sont déçus. Au moment où je commence à jouer, ça va mieux, donc souvent je sens une sorte de soulagement et de mystère, d'intrigue, parce qu'ils voient que je fais des trucs avec mes pieds, ils comprennent pas trop, ça change les timbres, et puis si j'ai la chance de pouvoir avoir un moment d'échange avec eux, je leur explique comment ça se passe, de façon très brève, parce qu'on n'est pas là pour faire un cours de pédale. Mais en tout cas, je pense qu'il y a, une réelle envie aujourd'hui de voir de leurs propres yeux quelqu'un faire quelque chose de différent, sans artifice. Donc finalement, prendre deux instruments, C'est presque plus apprécié aujourd'hui que d'avoir une bande derrière et de jouer avec la bande. J'aime bien venir sur Radio Campus parce que j'apprends toujours plein de choses. Donc, en fait, les deux personnes que tu as citées, je ne les connais pas. Donc, je vais aller tout de suite me renseigner parce que ça m'intéresse énormément. De toute façon, le clavecin, il a toujours eu une sonorité qui interpellait les gens pour le meilleur et pour le pire. Puisque quand je parle de clavecin, j'ai souvent la remarque qu'ils ne peuvent pas écouter tout un disque de clavecin. C'est pas possible, c'est trop enfermé, c'est trop hermétique comme son. Enfin, il y a quelque chose d'un peu du dégoût ou de quelque chose d'intrigant ou de très daté, comme dans les chansons des Beatles ou d'Elton John. Ou même, il n'y a pas longtemps, mon manager me parlait du générique de Vidocq. Donc, apparemment, c'était quelque chose de très populaire dans les années 70, mais nous n'étions pas là pour le voir. Mais nous comptons sur Lina pour nous mettre en courant de toutes ces choses.
Et donc là, cet instrument si particulier, tu nous le présentes sous la forme d'un calendrier de l'Avent. Est-ce que Noël et le clavecin, c'est particulièrement associé ou qu'est-ce qui motive ta démarche ?
Moi, je suis une fan de Noël. Je suis une fan du froid, de façon générale. J'aime l'automne et l'hiver. Donc, je suis dans un pays plutôt chouette pour moi, puisque en réalité, cette année, août... c'était déjà l'automne pour moi, et puis ça va continuer jusqu'à avril, j'imagine. Il fera moche jusqu'à avril, donc on me le souhaite en tout cas, on croise les doigts. J'adore Noël parce que c'est une période où tout s'allume, où on se retrouve, il y a quelque chose de chaleureux. Et je trouvais ça intéressant parce que je suis une vraie Halloween girlie, parce que j'ai tout ce qui est... de plus sorcière en moi qui ressort à chaque fois que je passe le pas d'une porte. Et je voulais mêler ce clavecin qui ressemble concrètement à un petit cercueil, à l'esprit de Noël et à mon côté un petit peu noir et blanc, parce que vous pouvez le voir donc dans le calendrier de l'Avent. Ce calendrier de l'Avent est totalement noir et blanc. C'est ma direction artistique au niveau de mon image de façon générale. Et il y a un peu de rouge. Et c'est la première fois sur mon compte qu'il y a de la couleur, je tiens à le dire. Donc il y a un peu de rouge et c'était vraiment une façon de mettre ce clavecin dans les mémoires et de se souvenir. Je pense que Noël, c'est un moment où on se souvient aussi des gens qui sont plus là. C'est pas toujours très joyeux. En fait, ça va être par exemple le premier Noël sans le grand-père, ça va être le premier Noël séparé parce qu'on vit très loin ou... des choses comme ça, et le clavecin est nostalgique, et je trouvais que ça marchait bien. Donc il y a plusieurs thèmes que j'ai repris qui vont bientôt arriver dans le calendrier, puisque plus on s'approche de Noël, plus ces chansons, ce sont des chansons de Noël, mais que j'ai repris en mineur, c'est un tout petit peu plus triste, et c'est vrai que quand j'ai fait les capsules, mon vidéaste m'a dit tiens, tu veux pas la prochaine fois faire le truc pour Halloween, quoi, parce que franchement... c'est un petit peu triste. Mais je pense que le calendrier de l'Avent, qui est quelque chose de très très commercial, moi j'ai encore vu là ce matin un calendrier de l'Avent à 800 euros, que j'avais bien envie d'avoir d'ailleurs. Je me le serais bien acheté. En plus, on nous le vend en disant qu'on fait des économies, je trouve ça tellement hypocrite. Je voulais juste faire un truc gratuit, parce que moi j'aime Noël pour tout ce qui, enfin, ce que ça représente au niveau de voilà, de la réunion avec les gens qu'on aime, les amis. Moi, je me souviens de faire des Noëls, j'ai des souvenirs de Noël exceptionnels, et je voulais juste le partager comme ça gratuitement, qu'il n'y ait pas un e-book spécial sur le clavecin moderne à 70 euros. c'est juste en fait ça me dégoûte aussi un petit peu, bien que je sois amoureuse de cette période et que je suis une grande consommatrice de Noël, mais je trouve ça toujours plus tôt, toujours plus cher, et voilà, je trouve ça dommage un peu de gâcher cette période magique en stress en fait aussi. Donc voilà, c'est un petit, des petites capsules de 10 à 1 minute pour déstresser tout le monde et faire que tout le monde s'intéresse à mon instrument de cœur. Voilà.
Alors, on rappelle que ce calendrier, il sera disponible sur Instagram, c'est ça ?
Oui.
Sur Facebook aussi ?
Non.
Non. Il sera disponible sur Instagram. Et
ce sera aussi disponible sur Sia Ronchour.
Ok, très bien. je vous laisse avec ça. l'idée un petit peu, parce que moi je me dis... déjà, est-ce que tu comptes que ce soit partagé ? Parce que là, les gens, on est à la radio, on n'a pas la vidéo. Mais comment est calculée un peu la mise en scène de la vidéo ? Parce que j'ai vu qu'il y avait mise en scène, parce que moi, forcément, je les ai regardées, en bon préparateur de commandes. est-ce qu'il y a eu une mise en scène vidéo de pensée ? Est-ce qu'elle est pensée avec la musique ? Parce qu'on parle quand même de médium multimédia. Et donc, comment t'as pensé un peu cette relation vidéo, musique, calendrier, Noël, Halloween, cercueil, Jésus.
Ben évidemment, tout est réfléchi par l'unique et même cerveau. Pas du tout. En fait, on est allé à Royaumont, qui est une abbaye exceptionnelle, dans laquelle j'ai le plaisir d'évoluer depuis maintenant 3 ans. Je suis en résidence depuis 3 ans, il me reste encore peut-être 1 ou 2 années, je ne sais pas, il faut voir avec eux. Mais j'ai eu l'opportunité d'être dans cette bibliothèque magnifique et avec un vidéaste qui a beaucoup d'idées. Et bien que j'ai tout marqué sur mon petit carnet en disant « je veux que ça, ce soit ça » et qu'on puisse voir les becs à l'intérieur du clavecin, quelque chose qu'on ne voit d'ailleurs jamais dans aucune vidéo, et ça m'intéressait aussi, c'était de montrer ce qu'on ne voit jamais. C'est-à-dire que quand on met un jeu de lutte, qui est un jeu spécifique dont je n'ai pas encore parlé, un petit feutre sur la corde, on ne voit jamais le feutre qui se pose sur la corde. Et là, c'était vraiment mon but, c'était de montrer à qui le veut comment ça se passe. Et donc de faire vraiment inside. Donc on voit un petit peu ma tête de temps en temps, mais finalement, ce n'est pas ce qu'on voit le plus dans le calendrier, ce qu'on voit le plus... c'est le clavecin. Je m'étais dit, oui, par exemple, je veux du jeu de lutte. C'était pas très difficile, c'est ma marotte numéro 1. Donc, c'était plutôt quand est-ce que j'en mets pas. Je me disais, ça irait bien avec cette improvisation ou ce thème. Je savais que j'avais envie de faire du bac, j'avais envie aussi de refaire des petits remixes de chansons de Noël que j'aime bien, de Frank Sinatra ou de même j'avais pensé à Sting, des choses comme ça. C'est des personnages que j'adore et du coup j'avais envie de les mettre un peu à ma sauce. Et bon, ce qui était le plus difficile sincèrement et ce qui est aujourd'hui je pense le plus appréciable dans ce calendrier, c'est que ça dure entre 10 secondes et 1 minute les vidéos, et il y en a une qui fait 1 minute mais pas plus. Et ça, au niveau des goûts du jour, c'est important que ça évite que l'information, on la capte assez rapidement, mais que ce soit quand même toujours agréable à regarder et pas juste, vous jettez dans l'eau froide et maintenant vous... Et en fait, finalement, j'ai imaginé des boucles Donc, en fait, quand ça se coupe, ça retombe sur le début, puisque moi, je suis une grande consommatrice d'Instagram. Donc, je vois, j'aime beaucoup les boucles. J'ai pas bien entendu cette phrase. Ça durait 15 secondes. Allez, on se remet la vidéo. C'est pas grave.
Justement, dans quelques, enfin en tout cas dans une partie de ce calendrier, alors je sais plus quel jour c'est, il y a un truc un peu totalement psychédélique avec des formes et tout. Est-ce que c'est un hommage aux années 60-70?
Je pense que d'une certaine manière, oui, puisque c'est une idée du vidéaste qui n'a pas le même âge que nous. Il va me tuer s'il écoute ça, mais... Lui, que je t'adore, mais c'est vrai que voilà, il avait cette idée de kaléidoscope. Et je trouvais que ça faisait très Noël. Bon, le celui qui est déjà passé en, en... Donc ça, il y en a un qui est déjà passé. C'est vrai que ça fait sous acide et que c'est effectivement, c'est, on dirait qu'on est pris dans des dents de baleine et que ça bouge et c'est très spécial. En plus, ça fait bon, c'est très vampire. C'est mon petit côté. Voilà, Halloween n'est pas loin, Mr Jack n'est pas loin non plus. Mais bientôt, vous aurez une de mes préférées avec une sorte de petite étoile et ça va être magnifique. Et oui, et voilà, et ce sera un petit peu moins psychédélique, mais c'est vrai que finalement, on s'est retrouvé avec des plans et puis aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses avec la vidéo, avec l'IA. Bon, là, il n'y a pas d'IA, mais on a quand même... On navigue entre une vidéo super nature parce que bon, voilà, il n'y a pas de point de montage, il n'y a rien. Où il va juste me suivre et faire des choses avec la clé d'accord et revenir sur mes mains, aller sur mon visage et puis... Ah bah, c'était la bonne, bon bah voilà, c'est super. Et d'autres où voilà, il a juste pris la vidéo et... ça fait une étoile avec des bouts de saucisse et en fait c'est mes doigts quoi. Et en fait voilà. Donc on s'est laissé guider par nos envies.
Si tu peux nous rappeler un petit peu ton Instagram. Ton TikTok, comme ça qu'on puisse aller voir ces merveilles.
Donc mon Instagram, c'est mon nom, c'est Ninon Hannecart, H-A-2-N-E-C-A-R-T, Segal, S-E-G-A-L, voilà. Et c'est tout en noir et blanc, donc c'est facile à trouver. Et même, je pense que si certaines personnes marquent juste Ninon, parce que parfois ça arrive, on me trouve déjà, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Merci à mes parents, merci.
Du coup, tu nous parlais de l'impro que tu fais au clavecin et t'improvises aussi au piano. Est-ce que c'est hyper différent? Est-ce que le timbre te nourrit de manière différente? Comment tu appréhendes ces deux médiums? Et est-ce que en impro, c'est... En plus, je crois qu'en... Enfin, du coup, c'est aussi de la musique ancienne pour toi, je sais pas. Enfin, c'est aussi un instrument ancien, ce que tu nous disais. Il y a plus cette pratique de l'impro, même en musique... classique, enfin pas contemporaine.
Je pense que je vais plus droit au but quand j'improvise au clavecin parce qu'au piano j'ai fait le CNSM de Paris et que en fait au piano j'ai quand même un red flag, c'est que il y a toujours un moment où j'ai envie d'impressionner la galerie en fait. Et bah il me faut encore 10 ans je pense pour sortir de la mouture peut-être. Au clavecin, je suis autodidacte parce que j'ai fait toutes mes études en clavecin dans des conservatoires très très bons avec des super profs, mais en fait je ne l'ai jamais pris au sérieux. Et en fait finalement, qu'est-ce qui se passe quand on prend quelque chose pas au sérieux? On ne se fout pas la pression, on ne se compare pas, Enfin, moi, je me suis jamais comparée à quelqu'un en clavecin. Ça n'est jamais arrivé. Et encore aujourd'hui, puisque je suis dans une niche vraiment spécifique, puisque je dois recréer tout l'offre et la demande du clavecin moderne aujourd'hui dans le monde. Donc, parce qu'il n'y a personne qui en joue. D'ailleurs, s'il y a des auditoristes qui veulent en jouer et qui veulent s'y intéresser, mais venez, parce qu'il n'y a personne. Je suis toute seule. Voilà. Quand j'ai demandé à la dame de m'aider, parce que du coup c'est un calendrier qui est sponsorisé et financé par l'Adami, donc qui est une structure qui aide les artistes, je leur ai dit que vraiment c'était du jamais vu finalement de faire de l'improvisation comme ça au clavecin moderne. Et je pense que c'est faux. C'est sûr qu'ils vont nous écouter, mais je pense que aujourd'hui, oui, c'est du jamais vu. Il n'y a pas de vidéo comme ça. Et je pense que vraiment, je suis très heureuse d'avoir créé quelque chose qui n'existe pas. Mais il y a eu un moment au XXe siècle, forcément, il y a des gens qui se sont marrés comme pas possible dans des studios à Radio France ou au conservatoire avec des clavecins modernes, parce que ça devait être génial de désaccorder un jeu et de raccorder en mésotonique l'autre. Et puis, et d'être avec ses amis et d'improviser. Évidemment qu'il y a des gens qui ont fait ça, mais personne ne s'est dit, tiens, c'est intéressant.
Ouais, et on va en faire quelque chose.
Oui, on va en faire quelque chose. Et même si ça intéresse personne, au moins, moi, ça m'intéresse. Ouais. C'est ça qui est important.
Est-ce que tu as des projets sur scène bientôt où on peut venir te voir, t'écouter quelque part ?
Oui, je vais jouer à Royaumont par exemple le 8 mars. Bon, c'est pas bientôt, mais c'est un concert qui est chouette parce qu'en plus, vous pouvez même l'écouter à la radio sans venir puisqu'il sera retransmis sur France Musique. Donc ça, c'est chouette. Vous allez pouvoir écouter aussi de la très belle musique pour Présence 2026. Et je pense à une date où je ne jouerai pas de clavecin, mais je jouerai du piano avec de l'électronique. Voilà, ça aussi, ce sera de la musique un peu datée, puisque c'est de la musique qui a 30-40 ans. Donc pour moi, c'est presque plus contemporain. Comme dirait le compositeur de cette pièce, Georges Apergis, c'est plus de la musique contemporaine maintenant. Oui, c'est vrai. Mais donc, ce sera le 31 janvier à l'IRCAM. C'est vraiment pas cher. Les tickets sont vraiment pas chers. C'est pas mal. Moi, j'aime la gratuité, comme vous avez pu l'entendre avec le calendrier de l'avant. Donc voilà. Mais sinon, il y a tout sur mon site si vous êtes intéressé pour en découvrir un peu plus. Et si vous voulez me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez une question. Voilà.
Merci Nénon, c'était trop chouette.
Merci à vous pour l'invitation.
Et on a hâte d'entendre la fin du calendrier.